Radio Classique, les spécialistes.
Bonjour Claude Le Pen.
Bonjour.
Économiste, un spécialiste des questions de santé. Vous signez une tribune dans Le Monde très intéressante qui explique que dans le passé, un pays avait mis un dispositif de protection très ambitieux contre de grandes pandémies. Et ce pays, Claude Le Pen, c'était la France de 2007.
C'était la France en 2007, au sortir de la crise de la grippe aviaire à Saint-Cannin, à l'initiative d'un député médecin, chef de service en pédiatrie à la Timone à Marseille. Le ministre de l'époque, qui était Xavier Bertrand, a conçu un dispositif qui serait exactement celui dont on aurait eu besoin pour affronter le coronavirus de 2020. Et il y avait le fameux milliard de masques chirurgicaux. Il y avait près de 300 millions de masques FFP2. Il y avait tout ce qu'il fallait pour affronter la crise actuelle avec 13 ans d'avance.
Voilà, création du fameux corps de réserve sanitaire, mais aussi création d'un nouvel établissement public, l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires.
Voilà, donc les Prusses, donc c'était effectivement une originalité de cette loi. On avait constaté des défaillances dans la réponse logistique de l'État, et donc créer un établissement qui devait un petit peu passer des commandes, gérer les stocks. Les stocks étaient répartis sur tout le territoire, donc il fallait un petit peu coordonner l'action de différentes structures. Et donc, effectivement, cet établissement a été créé. Il a disparu en 2016, il a été intégré à Santé publique France. C'était une toute petite structure, quelques dizaines de personnes, mais gérant d'énormes stocks. Le stock était évalué à plus d'un milliard d'euros en 2007. Et donc, cette structure était effectivement en charge. Cela étant, elle avait peu d'autonomie, elle était très encadrée par l'État, on lui donnait peu de responsabilité. Elle s'en plaignait d'ailleurs, puisqu'il y a eu une crise à sa tête et le premier directeur a démissionné pour protester, entre autres, contre un petit peu le manque d'autonomie, l'État ayant tendance à tout faire et à négocier directement les contrats avec les industriels, en passant par la tête de l'institution qui aurait dû le faire et qui avait les compétences pour le faire.
On était quand même en plein principe de précaution, si je puis dire, Claude Le Pen, et les choses commencent à changer assez vite d'ailleurs, dès 2008-2009.
Oui, c'est ça. Alors, on était effectivement en période de précaution. 2008-2009, c'est aussi la période de la grande crise, la crise des subprimes, donc qui bouleverse un peu les esprits et les finances. Et puis, va arriver là-dessus l'épisode de la fameuse grippe H1N1, et avec une réponse de l'État extrêmement forte, avec des achats de millions de doses de vaccins, et finalement, l'épidémie n'aura pas lieu. Donc ça a beaucoup aussi choqué dans l'administration de la santé, le surstockage des vaccins et surtout les erreurs de prévision, puisqu'on s'attendait à une crise autrement plus importante que celle qui a finalement survenu. Le stock avait été constitué rapidement, par-dessus un peu la tête de l'Épruce, hein, avec des erreurs de contrat, des contrats pas très bien ficelés juridiquement, sans clause de révision, ce qui fait qu'à l'issue de la crise, l'État a été obligé de verser des millions d'euros de compensation aux laboratoires pharmaceutiques.
Voilà, donc, des indemnisations, qui ont contribué d'ailleurs au procès un petit peu de Roselyne Bachelot, qui était ministre de la Santé à l'époque.
Absolument, ouais. Au procès de Roselyne Bachelot, et puis à l'idée que finalement, on en avait trop fait, quoi. Il y avait trop de stock, et donc il fallait plier la voilure et diminuer un petit peu les éléments existants.
Claude Le Pen, je répète que vous êtes spécialiste des questions de santé. Le manque d'anticipation, le manque de moyens, aujourd'hui, c'est à la fois politique, économique et institutionnel pour vous ?
Oui, je pense. Alors, pas politique, je sais pas. J'ai du mal à trouver des responsabilités ou des boucs émissaires. Je pense que c'est une conception globale. Je pense qu'un certain nombre de décisions ont été prises qui, à l'époque, pouvaient paraître rationnelles, mais qui, dans le temps, se sont avérées un peu désastreuses. Donc, si vous voulez, ce qui me semble important, c'est la résistance au temps long, si vous voulez. Hein. Oui. En fait, on avait un dispositif et puis il s'est usé au fil du temps. Donc, maintenant, maintenir la vigilance, non pas à 1 an, 2 ans, mais à 10 ans, à 13 ans, à 20 ans, et résister à la pression du court terme, aux économies à faire pour boucler un budget d'une année sur l'autre, c'est en matière de santé, en matière de précautions sanitaires, il faut vraiment avoir le temps long, une perspective à long terme. Or, notre gestion de la santé aujourd'hui, c'est année par année. Hein, c'est-à-dire qu'on vote une loi de financement chaque année qui s'applique au 1er janvier et qui est obsolète au 31 décembre, il faut en voter une nouvelle. Donc, si vous voulez, on est pris, si vous voulez, par une urgence qui nous fait perdre un petit peu de vue des éléments qui n'ont de sens que installer de manière permanente et rigoureuse dans la très longue période.
Claude Le Pen, ça signifie que pour vous, on a failli ?
Pardon ?
Je vous demandais si pour vous, on avait failli face à cette crise du coronavirus, justement, sur ce manque d'anticipation.
On a failli au sens où on n'était pas très près, mais quel pays n'a pas failli ? C'est-à-dire que la Chine, qui pourtant a des épidémies pratiquement tous les ans, a failli. L'Italie, l'Espagne, les États-Unis sont en train de faillir. La Grande-Bretagne, qui se croyait à l'abri. Je pense que, en l'occurrence, la France, avec son système de 2007, avait 13 ans d'avance. Elle l'a un peu perdu, mais aujourd'hui, disons, devant l'ampleur de la crise, devant sa dimension internationale, il y a des éléments plus larges que, disons, uniquement des éléments nationaux. C'est vrai qu'on n'était pas prêt, c'est vrai que c'est assez inédit, mais c'est vrai quand même que des esprits lucides et ambitieux avaient préparé des plans, et qu'on a un petit peu oublié des leçons. Maintenir la mémoire à 13 ans d'intervalle en politique, c'est compliqué.
Merci beaucoup, Claude Le Pen, d'avoir été ce matin sur l'antenne de Radio Classique, économiste et spécialiste des questions de santé. Les spécialistes, deuxième partie, dans un instant.
Dans la vie des affaires, pouvoir compter sur son avocat en toutes circonstances, c'est indispensable. Chez Del Sol Avocat, grâce à nos 9 départements spécialisés, nous répondons rapidement à tous les besoins de nos clients. Del Sol Avocat, la qualité de la relation. Et retrouvez les experts de Del Sol Avocat dans Parlons Droit des Affaires, les mardis et jeudis matin sur Radio Classique.
Radio Classique.
Renaud Blanc sur Radio Classique.
Il est pratiquement 7h47 sur Radio Classique. Nous sommes mercredi, nous retrouvons donc le monsieur cinéma de Radio Classique, Bruno Kras. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Alors évidemment, tous les tournages sont arrêtés en ce moment, mais petite lueur encore d'espoir, il y a des projets qui sont en train de se monter.
Oui, et même des projets de blockbuster. La MGM vient d'acheter les droits d'un livre pour Ryan Gosling, figurez-vous. Alors c'est drôle parce que c'est un rôle qu'il a déjà un peu interprété. Il va jouer un astronaute. Vous vous souvenez que Ryan Gosling avait joué dans First Man de Damien Chazelle, l'auteur de La La Land. Il jouait Neil Armstrong, l'homme qui a marché sur la Lune le 21 juillet 1969. Eh bien, l'auteur de Seul sur Mars, qui avait été aussi adapté au cinéma, est en train d'écrire un livre sur un astronaute. Le livre n'est pas terminé, mais la MGM a déjà acheté les droits. Et c'est l'histoire d'un astronaute qui va sauver le monde, voyez. Et j'ai envie de faire un peu d'humour par ces temps difficiles. On a besoin d'un Ryan Gosling en ce moment pour sauver le monde, tout à fait.
Alors, évidemment, pas de cinéma possible, mais le cinéma, c'est à la télévision. Et vous avez fait votre petite sélection avec un film à voir ce soir sur Arte, je crois, qui s'appelle Vajja.
Vajja, et pas absolument, à 20h55. C'est un petit bijou. C'est un film qui nous vient d'Arabie Saoudite, c'est très rare, réalisé par une femme, c'est complètement une première. Elle a d'ailleurs eu du mal à le réaliser, elle s'est cachée dans un van pour filmer à cause du code religieux très strict. Et c'est un très joli film qui peut être vu de 7 à 77 ans. C'est l'histoire de la petite Vajja, qui a 10-12 ans, qui est assez espiègle, qui se balade avec un casque sur les oreilles, des baskets, et qui repère un vélo. Or, en Arabie Saoudite, à cause de la religion, les femmes n'ont pas le droit de faire du vélo. Elle va économiser pour s'acheter un vélo, pour faire la course avec un petit camarade, évidemment contre l'avis de tous ceux qui l'entourent, son père, sa mère, les religieux, etc. Ce qui est beau dans ce film, c'est que c'est très humaniste, très chaleureux et bienveillant avec tous les personnages. Et c'est un film universel qui parle du goût irrépressible pour la liberté d'une jeune fille, de sa volonté, du monde. Et c'est un film universel, c'est un très joli film, encore une fois, qui peut être vu même même avec des enfants. Et c'est pour ça que je l'ai choisi. C'est ce soir sur Arte à 21h.
Et vous l'avez très bien vendu, parce qu'au départ, un film saoudien sur une jeune fille de 12 ans qui rêve de faire du vélo, c'est pas forcément vendeur.
Non, non, mais c'est une perle.
C'est une perle assez notée. D'autres films dans les jours qui viennent avec deux longs métrages qui ont retenu votre attention, Bruno?
Absolument. Dimanche prochain, faut bien le noter sur les tablettes, c'est le dimanche 5 avril, et bien France 2, à 21h, c'est Au revoir là-haut, le fameux film de d'Albert Dupontel, vous savez, d'après le prix Goncourt de Pierre Lemaitre en 2013, avec Dupontel, Nahuel Pérez-Biscaillard, qu'on avait découvert dans 120 battements par minute, Ilsa Restrup, Laurent Lafitte, Émilie Dequesne. C'est l'histoire d'Albert, Albert Dupontel, d'Edouard, Nahuel Pérez-Biscaillard, qui sortent de la guerre. Le second, Edouard, a été défiguré en essayant de sauver son ami, et ils vont monter une escroquerie au Monument aux Morts. C'est très très bien, c'est pas du tout le style habituel de Dupontel, qui nous a habitués à des petits films drôles et au vitriol, mais c'est un grand film romanesque, et c'est très très bien. Donc notez bien, dimanche 5 avril sur France 2, et puis lundi prochain, là aussi c'est un chef-d'œuvre absolu, sur France 5 cette fois, qui nous gratifie de très bons films en ce moment, le chef-d'œuvre de Visconti, 1960, Rocco et ses frères, avec Alain Delon qui avait 25 ans à l'époque, entouré de Jurocco d'ailleurs, entouré de Renato Salvatori, Annie Girardot, Claudia Cardinal. Une petite question, mon cher Renaud, rapidement. Delon et Claudia Cardinal ont tourné deux ans après sous la direction de Visconti dans
Le Guépard.
Bravo, je savais que vous étiez un sacré cinéphile. Voilà, Le Guépard.
Et on se quitte avec la musique de Rocco et ses frères, signé Nino Rota. Merci Bruno, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
On va changer totalement d'univers avec vous, Dimitri, puisque nous parlons évidemment économie.
Le CAC 40 et ses dividendes.
Et ses 440, voilà, revoilà la polémique sur les dividendes.
Oui, bon, c'est un grand classique quand même du débat économique en France. Alors d'habitude, elle arrive plutôt fin mai, au moment du bilan des assemblées générales d'actionnaires, avec à peu près toujours les mêmes positions. Ceux qui estiment qu'il faut interdire purement et simplement les dividendes, et puis les autres qui se demandent, mais de quoi l'État se mêle-t-il ? On en reparle évidemment parce que le gouvernement vient d'appeler les entreprises à la modération et à la responsabilité. Il est même allé jusqu'à conditionner les fameuses aides publiques, report de charges fiscales et puis le bénéfice de la garantie d'État sur les prêts bancaires au non-versement des dividendes. Alors, on peut déjà dire une chose, c'est que la France le fait, mais pas seulement, hein, les Allemands aussi, hein, les États-Unis ont également posé des prérequis à leur dispositif de soutien public. Par exemple, aux États-Unis, les prêts fédéraux ne seront accordés en échange d'une abstinence en matière de rachat d'actions ou de distribution de dividendes. Donc vous voyez, il n'y a pas que chez nous que ce débat a lieu en ce moment.
Dimitri, on avait eu la même polémique en 2008.
Oui, et ça avait laissé... c'est vrai que le sauvetage des banques à l'époque avait laissé quand même un goût amer à beaucoup de citoyens qui s'étaient dit, on a nationalisé les pertes, en revanche les profits avaient été privatisés. Voilà, on avait finalement... Les actionnaires des banques n'avaient pas du tout supporté l'aléa moral. La grande différence avec la crise de 2008, c'est que cette fois, aucun acteur économique n'est coupable. C'est une pandémie, c'est extérieur à l'économie, en fait, ce choc actuel. Alors, c'est pour ça aussi, d'ailleurs, qu'en France, certes, il y a cette condition qui est posée par l'État au versement des aides publiques, mais une latitude, quand même, est laissée aux entreprises, qui, d'ailleurs, ne sont pas du tout obligées de demander le soutien de l'État. C'est le cas, par exemple, de Total, de L'Oréal ou encore d'Hermès, qui annonçaient qu'ils ne demanderaient pas d'aide publique, même s'ils peuvent potentiellement demander le chômage partiel, ce qui va donc leur permettre de préserver leurs dividendes. Vous avez des sociétés, en revanche, qui, elles, vont accepter l'aide publique ou qui, de manière par exemplarité, ne verseront pas de dividendes. C'est le cas, par exemple, des banques Natixis ou Société Générale. Et vous avez des sociétés qui vont souffrir et qui vont demander l'aide publique et qui, elles, ont renoncé à leurs dividendes. C'est le cas de Safran, c'est le cas aussi d'Auchan, par exemple, pour n'en citer que deux. Et puis, il y a aussi des patrons qui vont jouer l'exemplarité. C'est un peu plus flou sur ce point-là, en acceptant de baisser leur rémunération. Mais enfin, ceci dit, le bilan est assez maigre, hein, pour le moment. Vous n'en avez que deux qui l'ont fait, le PDG de Saint-Gobain et puis son bras droit, Benoît Bazin. Ailleurs, sur la question de la baisse de rémunération des dirigeants, là, c'est un petit peu plus flou pour le moment, il faut bien le dire.
Merci beaucoup, Dimitri, pour toutes ces précisions. Bonjour, Élodie.
Bonjour Renaud, vous allez bien ?
Mais écoutez, très bien. Et votre salle de bain se porte bien ?
Ah bah toujours pareil. Les enfants dorment encore, la voie est libre.
Voilà, alors on va parler avec vous d'un drôle de jeu qui divertit tout Paris depuis quelques jours.
Oui, je voulais vous faire jouer un petit jeu, Renaud. Alors, je sais qu'il est un peu tôt, mais je vais vous demander de mettre les mains sur le buzzer. Est-ce que vous êtes prêts ?
Je suis prêt.
Je suis un jeu télévisé français d'origine britannique diffusé sur la 3 depuis 1988. Dans ce jeu, quatre candidats doivent, lors de trois manches successives, répondre à des questions de culture générale présentées pendant près de 30 ans par Julien Lepers. Je suis...
Question pour un champion.
Eh bien, bravo, je savais que vous trouveriez. Prenez une émission mythique, ajoutez un comédien confiné à Paris dans le 11e arrondissement et un balcon, et vous aurez le nouveau jeu qui emballe effectivement les Parisiens et les réseaux sociaux en ce moment. Question pour un balcon. Voilà, c'est un acteur de 31 ans, Noam Cartozo, qui a eu l'idée de ce rendez-vous insolite spécial confinement. Chaque soir à 20h, il se glisse sur son balcon, vêtu d'un costume de présentateur, et il harangue ses voisins qui se massent aux fenêtres avec des questions de culture générale, et ça donne ça.
Bonsoir la rue Saint-Bernard et bienvenue à Question pour un balcon. Est-ce que vous êtes prêts ? Ce soir, c'est un peu plus difficile qu'hier, parce qu'hier, ça a été trop rapide. Vous étiez trop chaud. On continue, toujours le même principe. L'équipe paire contre l'équipe impaire. Attention, ce soir, les questions sont un peu plus difficiles. Est-ce que vous êtes prêts ?
Oui !
Ok.
Oui, manifestement, ils sont prêts. Alors, c'est vrai que c'est le côté pair contre le côté impair. C'est pas
exactement.
Mal trouvé.
Exactement. Ouais. Cinéma, géographie, sport, histoire. Noam Cartozo pose 12 questions et le gagnant, évidemment, remporte un cadeau. Et ça ne manque pas d'humour. C'est tout simplement un rouleau de papier toilette. Alors, ça se passe dans la rue Saint-Bernard. Mais néanmoins, ça n'a pas manqué de ravir les internautes. Partagé sur Twitter, la vidéo a déjà cumulé 1 million de vues en seulement une journée. Et puis, comme un jeu télévisé, les parties sont diffusées en direct sur Instagram et partagées sur les autres réseaux sociaux. Donc ça peut vous inspirer, vous qui nous écoutez, si vous vous sentez une âme d'animateur et que vous avez une voix de stentor, hurlez au balcon des questions de jeux de société. En tout cas, en ces temps de confinement où 3 milliards de personnes dans le monde sont confinées chez elles, eh bien c'est réconfortant et fascinant de voir que tout est bon pour garder le lien, tout est bon pour faire société justement, même de loin.
Merci beaucoup Élodie pour cette petite chronique. C'était un petit bijou ce matin, 7h56 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, le décryptage de David Barou.